Alors, bienvenue à cette 628e conférence de l'Université de tous les savoirs. Je salue aussi, en dehors de ceux qui sont ici présents dans cet amphithéâtre, tous ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet, sur les sites de Canal U, c'est-à-dire le site de l'Université de tous les savoirs, utls.fr, et sur le site du journal Le Monde. Alors, nous vous accueillons ici pour une nouvelle série de conférences un peu particulières, sur les métiers de l'ingénierie industrielle que l'Université de tous les savoirs organise en partenariat avec la société Technip. Cette série de conférences va se dérouler du 8 janvier au 15 janvier jusqu'à lundi prochain et je vous donnerai la parole à Michel Buffenoir de la société Technip qui nous a proposé cette série de conférences que nous avons acceptées. Très volontiers. Je précise d'ailleurs que l'Université de tous les savoirs a toujours tenu à accorder une importance considérable aux techniques et aux technologies, même si l'intérêt du public est un peu moindre que pour les questions de sciences fondamentales ou éventuellement même les questions de société. Mais les techniques et les technologies font partie intégrante de la culture contemporaine. Elle structure nos existences. Je crois que vous allez le voir de manière absolument évidente au fil de ces conférences. Et il fait partie de notre travail, d'Université de tous les savoirs, de diffusion du savoir, de montrer ce qu'il en est des évolutions des techniques et des technologies les plus avancées et aussi de la science appliquée. Quelques mots avant que je cède la parole à Michel Buffenoir sur les prochaines conférences de l'Université de tous les savoirs. Elles auront lieu en juin 2007 sur le thème de les hommes dans les conditions de vie extrêmes. Le programme est en cours de constitution et vous verrez qu'il s'agira aussi bien de l'homme dans les conditions de vie désertiques ou les conditions de vie dans les très grands froids que dans les conditions de vie extrêmes au sein même de nos sociétés. Alors, pour les programmes complets et les modes de diffusion de l'Université de tous les savoirs, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais comme il y a toujours des nouveaux arrivants, les programmes sont disponibles à l'entrée de l'amphithéâtre, ici, sur les documents que nous mettons à votre disposition, et ils sont aussi, bien évidemment, disponibles sur le site internet. Je précise une dernière chose avant de passer la parole à Michel Buffenoir, qu'il y a ce soir une interversion de conférence, c'est-à-dire que la conférence va être donnée par Pierre Armand Thomas, c'est la conférence de jeudi qui va être donnée ce soir sur les plateformes offshore, sur et sous l'eau, et la conférence sur la construction d'une usine du virtuel au réel de Anne Pouliken aura lieu en revanche jeudi. Sinon, l'ordre des conférences sera respecté. Donc, je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent, le ministère de l'Éducation nationale et nos partenaires médias et l'Université Paris 5 qui nous accueille ici. Et je passe la parole maintenant à Michel Buffenoir pour qu'il nous expose, je dirais d'abord, ce qu'est la société Technip et aussi l'esprit de cette série de conférences. Merci.
Merci beaucoup. En tant qu'initiateur pour le groupe Technip, où nous sommes déjà dans des conditions de vie extrêmes, Monsieur Michaud, de cette série de conférences qui vont exposer les facettes de notre métier tout au long de cette semaine, je voudrais d'abord remercier l'Université de tous les savoirs qui nous a ainsi permis de nous exprimer et j'espère de nous faire mieux connaître. Merci pour votre équipe. Merci pour vous-même, Monsieur Michaud, de nous avoir donné cette opportunité. Merci à vous, tous les chers auditeurs ici présents, d'être venus pour découvrir ce que nous réalisons dans notre groupe français, un des plus importants au monde dans ce domaine de l'ingénierie. Nous sommes avec un peu plus de 22 000 personnes sur les 5 continents, une société qui étudie, qui achète, et qui construit tous les éléments d'usines très diverses. Ça va du traitement du pétrole ou du gaz au traitement de minerais, de multiples installations industrielles qui, j'espère, vous surprendront, des bâtiments de l'Airbus, des installations pharmaceutiques, des engrais, des plateformes en mer, bien sûr, des tuyaux flexibles. Nous ne sommes pas connus du grand public. Nous le regrettons. Nos réalisations ne sont faites que pour des grosses sociétés. Je ne sais pas si dans l'assistance, quelqu'un nous passera une commande à la fin de ces conférences, mais nous traitons plutôt avec Total, avec Sanofi Aventis, avec Exxon, avec Alcan, avec Areva, avec Shell, pour n'en citer que très peu. Et beaucoup de nos contrats, de nos réalisations sont protégés par des accords de confidentialité en raison de la concurrence et de la stratégie qui existe entre ces grands groupes. Oui, dans quoi nous vous livrerons quand même quelques informations. Nous opérons sur Terre. Les raffineries, c'est bien connu, le traitement du gaz naturel, la pétrochimie, les bâtiments industriels, la chimie fine, la pharmacie, la métallurgie. Nous opérons en partie sous terre, avec tout ce que nous devons faire en dessous de nos usines, avec le traitement des minerais. Nous opérons sur mer, plateforme, et la conférence inaugurale d'aujourd'hui vous en parlera. Nous opérons sous la mer. Nous n'opérons pas encore dans l'atmosphère. Nous devons y penser pour équiper peut-être les plateformes spatiales de demain. Qui sait ? Nous faisons ici un appel à toutes les connaissances, toutes les technologies enseignées dans nos écoles et nos universités, toutes les compétences en informatique, toutes les références en finance, en démarche commerciale, en juridique, en contrôle de coûts et d'avancement, en support administratif, en chantier et en construction, sont les bienvenus pour perpétrer et accroître encore toutes nos activités. Nos bureaux et nos chantiers, dans tous les pays du monde, offrent des opportunités multiples pour des réalisations toujours différentes et toujours motivantes. De plus, je terminerai là-dessus, notre métier évolue rapidement, qui se doit d'être toujours adapté aux conditions géopolitiques locales, du Chili à l'Alaska, du Moyen-Orient à l'Afrique, de Dunkerque à Shanghai, toujours adapté au développement technologique incessant, les nouveaux métaux et leurs substituts, les robots et l'informatique, les procédés physico-chimiques, etc. Et à des investissements de plus en plus élevés et compliqués. Les usines d'aujourd'hui traitées par notre groupe sont largement au-dessus du milliard d'euros. Nous commençons à prendre des contrats géants à 5, 6, 7 milliards d'euros par usine. J'espère avec ces quelques mots vous avoir tenté pour mieux découvrir notre groupe et ses activités. Je vous remercie déjà de votre attention et je veux souhaiter la bienvenue à notre premier conférencier, M. Pierre Armand Thomas, ici présent. Pierre Armand est né il n'y a pas longtemps, en 1947. Il est devenu rapidement l'ingénieur de l'École supérieure des travaux publics de Paris. Il a commencé sa carrière à la Compagnie française d'entreprises métalliques. Il est maintenant senior vice-président Offshore Technology, il faudra qu'on trouve une traduction française, est présent chez Technip depuis presque un quart de siècle, complètement dédié aux technologies offshore. Je pense qu'en français, ce seront les technologies marines. Il est aujourd'hui directeur de ces technologies, également en charge de la politique de recherche et développement dans ce domaine. Je crois et j'espère qu'il va nous livrer peut-être quelques secrets sur les derniers développements que Technip met en œuvre pour approvisionner notre monde en énergie issue du pétrole ou du gaz. Merci, Pierre Armand, à toi.
Bonsoir. Je ne suis pas sûr que je vais rester assis tout le temps. D'abord, vous verrez peut-être bouger. Donc, je suis un type assez bondissant par moment. Ce qui était difficile pour cette présentation, c'est qu'en général, nous exprimons peut-être mal, mais en anglais. Donc, je vous prie d'excuser s'il subsiste dans la présentation des termes anglais qu'on a du mal à éviter. On utilise par exemple dans une plateforme le nom de Moonpool, j'ai pas su la traduire. On va commencer par peut-être préciser un peu ce que c'est que le développement pétrolier, parce que je crois quand même qu'il y a quelques notions qu'il faut connaître. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi des plateformes en mer? D'abord, essentiellement, c'est pour produire de l'huile et du gaz. Alors, pour produire de l'huile et du gaz, il faut chercher ce qu'on appelle les accumulations dans le sol et trouver donc les fameux champs pétroliers ou gaziers. Et petit à petit, il s'est développé des champs pétroliers sous la mer ou sous les océans. Pour cela, il faut forer. Vous allez entendre parler de forage, de plateformes de forage, de plateformes qui vont aussi perforer la roche. La notion de réservoir pétrolier, c'est pas du tout un lac placide et tranquille qui est au fond de la terre, c'est du gaz et de l'huile qui imbibent de la roche. Alors, ce qu'on sort de la terre, ce n'est pas de l'huile et du gaz pur, c'est aussi plein de choses qui sont mélangées. Il y a beaucoup d'eau, donc ce qui fait dire que les compagnies pétrolières sont les plus grands producteurs d'eau, ce qui est d'ailleurs vrai, puisqu'en fait, il y a pratiquement autant d'eau que d'huile qui est produite. Dans les gaz, il y a des gaz qui sont néfastes, qui sont des gaz acides, comme de l'hydrogène sulfuré ou du gaz carbonique, qu'il faut aussi traiter. C'est-à-dire, le traiter, il faut les éliminer pour éviter d'avoir à faire des conduites d'évacuation en matériaux très chers et très exotiques. Il y a également des venues de sable et des impuretés qu'il faut pouvoir aussi éviter de transporter sur des grandes distances. Alors, lorsqu'un champ de pétrolier devient assez loin des côtes, il ne devient pas du tout économique de faire une évacuation directement à terre parce que les conduites seraient trop coûteuses. Donc, il y a la notion de faire une plateforme. Alors, ces plateformes sont faites pour quoi? Elles sont faites principalement pour séparer l'huile de l'eau, du gaz et des impuretés et aussi réduire l'acidité des gaz transportés ou des huiles transportées. Alors, il y a une notion importante qu'il faut tout de suite prendre en compte, c'est que l'huile, ça se stocke. Le gaz, on ne sait pas le stocker pour l'instant en mer. Ça, c'est un point qui est assez important pour la suite. Alors, les plateformes sont nécessaires donc pour supporter toutes ces unités de traitement, c'est-à-dire la séparation de l'huile, de l'eau et du gaz, c'est-à-dire aussi supporter les lignes qui vont connecter la plateforme au fond, parce qu'il faut bien ramener tout ce qui est produit en mer, le remonter à la surface, et puis aussi accueillir des systèmes pour forer, des systèmes pour traiter, et également toutes ces machines ont besoin de puissance, il y a des quartiers d'habitation pour opérer ces plateformes, et bien sûr, j'aurais dû commencer par cela, le système de sécurité incendie, anti-explosion, pour éviter, puisque vous verrez par la suite dans la prochaine présentation, dans la prochaine vue, pardon, ces matériaux que nous traitons à bord sont éminemment explosifs, et donc il est très important de faire attention à tout ce qui est prévention pour les risques d'incendie ou d'explosion. Alors, ces installations dépendent, ça dépend des champs développés et des configurations de réservoirs que nous avons à produire, mais il n'est pas rare de voir des installations qui vont jusqu'à 30 à 40 000 tonnes de poids supportées par ces plateformes. D'autre part, il faut quand même savoir aussi que ce qu'on produit, c'est la haute pression. Alors, par haute pression, j'expliquerai un peu plus, je m'en excuse pour les scientifiques parce que j'utilise des exemples un peu simplistes, mais on parle de 300 bars à peu près minimum jusqu'à 1150 bars et des températures qui peuvent être concomitantes jusqu'à 180 degrés Celsius et plus. Alors la production pétrolière en mer fait appel à plusieurs étapes. La première, c'est bien sûr de rechercher les accumulations potentielles et possibles. Pour ça, on utilise amplement la géophysique. Géophysique, ça consiste à faire des mini-explosions pour repérer les réservoirs par des moyens de réflexion. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas mon domaine. Mais en fait, disons que là aussi, il y a d'énormes progrès qui ont été faits, puisqu'on arrive à beaucoup mieux caractériser. Il n'était pas rare avant de faire 10 puits avant de trouver un puits productif, ou même des fois plus. Maintenant, c'est plutôt dans le ratio de 1 pour 4. Donc, les forages d'exploration ont pour but de rechercher, une fois qu'on a trouvé potentiellement une image qui dit qu'il peut y avoir une accumulation d'huile et de gaz, ces forages sont faits pour justement trouver, voir si quel type de réservoir est là, et ensuite de faire des tests sur les pressions, sur la nature de l'effluent produit, pour justement imaginer comment on va développer ce réservoir. Alors, si les réserves sont prouvées et commerciales, il y a les recherches de solutions pour savoir comment ce champ va être développé en mer, en pleine mer. Et pour cela, il y a beaucoup de critères qui interviennent. Et d'abord, définir le traitement, quels sont les supportages d'installation de forage, de production, traitement, génération de puissance, quartier d'habitation. Tout cela a besoin d'être imaginé. Évacuation des produits, parce qu'il s'agit bien sûr, une fois que les produits sont prêts à être exportés, comment les exporter vers la terre. Traitement des produits associés, eau de gisement. Donc l'eau de gisement, c'est l'eau produite en même temps que l'huile et le gaz. Tous les effluents qui peuvent être associés. Et puis, il y a d'autres notions, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a certains puits qui vont avoir une baisse de pression rapide. Pour ces puits, il faut faire ce qu'on appelle l'activation, c'est-à-dire réinjecter de l'eau, réinjecter du gaz pour que ces puits restent. C'est quand même un peu un flacon de parfum. Hein. L'image n'est pas très bonne parce que j'ai dit que ce n'était pas un liquide, c'était un liquide dans une roche. Mais néanmoins, c'est comme un flacon de parfum. On réinjecte du gaz pour maintenir la pression pour que le liquide remonte. Ensuite, il y a aussi des matériaux, quand on va forer dans de la roche, on crée des débris qui remontent à la surface. Ces débris, très souvent, doivent être réinjectés. Donc, on va les écroiser, les broyer, en faire ce qu'on appelle une seedbed pat, en anglais un slurry, et on va donc réinjecter ça dans des couches géologiques. Voilà. Alors, il est clair qu'une plateforme ne peut pas exister si elle n'a pas un ensemble de communications avec le fond, que ce soit les communications par tuyauterie pour remonter les produits, les liquides et les gaz, mais aussi des informations et aussi des moyens d'activation des systèmes de commande qui sont au fond. Principalement, un ensemble pétrolier, c'est de la plomberie, très haute pression, avec des blocs de vannes de sécurité. Certaines de ces vannes sont au fond de la mer et il faut pouvoir les commander de façon sûre avec de l'hydraulique, avec de l'électricité. Alors, quelques conditions d'environnement pour les plateformes. Les houles auxquelles nous avons à faire face, ça peut être jusqu'à 33 mètres de hauteur, de crête à creux. Donc, c'est quand même la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Des courants qui peuvent être très forts, 5 mètres secondes, 18 km heure. Des conditions de vent cyclonique, jusqu'à 250 km heure et plus. Fort heureusement, c'est pas toujours en même temps, hein, parce que c'est toute zone géographique confondue. J'ai parlé tout à l'heure du poids en surface, ça peut être 40 000 tonnes et plus. Les pressions, j'ai dit 1150 bars, 180 degrés et plus. Les quantités de volume à traiter sur des plateformes, ça peut être assez faramineux, puisqu'on parle de 500, alors on parle en barils, il faut diviser par 6 pour trouver des mètres cubes, donc je vais parler en mètres cubes tout de suite, 80 000 mètres cubes par jour, ça peut monter jusqu'à ce point-là, si on prend en compte de l'eau, le gaz, l'huile, tout qui passe dans la plateforme. La production propre, qui est noble, qui est utilisable, ça peut être jusqu'à 220 000 barils et plus. Alors 220 000 barils, 35 000 mètres cubes, c'est une chaîne continue de 1200 camions semi-remorques, citernes, vous voyez, ça fait à peu près ça. C'est-à-dire qu'il sort de la plateforme à peu près un camion par minute. Ça vous donne une idée de ce que c'est. Les pressions dans les grands fonds, alors bien sûr, quand on va dans la profondeur d'eau, on commence à atteindre des profondeurs qui sont entre 2 et 3 000 mètres actuellement, même presque, on tutoie les 3 000 mètres, 300 bars. 300 bars, c'est énorme. Pour tout ce qu'on va mettre au fond de l'eau, doit résister à cette pression-là. Alors, 100 bars, pour fixer un peu les idées, 100 bars, ça représente 1000 tonnes par mètre carré. Et 1000 tonnes par mètre carré, si on s'amuse, ça fait 1000 voitures sur un mètre carré, 1000 méganes sur un mètre carré. Donc, ça vous donne aussi une idée de ce genre d'efforts qui sont à traiter. Autre phénomène, la profondeur de l'eau dans le grand fond, en 2000 mètres d'eau, c'est 2 degrés Celsius. Ce qui pose des problèmes pour garantir les écoulements des canalisations au fond de la mer. Puisque l'huile est, comme vous le savez, beaucoup plus visqueuse par basse température que par température élevée. Un autre point très important, les installations que nous faisons sont faites pour opérer 35 ans en mer sans être révisées, juste entretenues et maintenues. 35 ans, très souvent, nous demandent des garanties de 10 fois. C'est-à-dire que les pièces que l'on décide, que l'on construit, doivent tenir 10 fois cette durée de 35 ans, c'est-à-dire 350 ans. Ce qui est quand même une contrainte non négligeable. Alors, un peu d'histoire. En fait. Ça, c'est pas du tout un lieu de villégiature, mais enfin, les gens se baignaient à côté de cette forêt de d'Éric. On sentait quand même l'envie d'aller en mer, mais pas tout à fait encore. Mais ça vient. Là, les baigneurs ont disparu et les plateformes, les passerelles avec les plateformes qui étaient en bois, sur pilotis en bois, commencent à prendre la place. C'est pas proprement parler de l'offshore, mais ça commence. Là, ça devient vraiment de la mer. Alors, c'est en très faible profondeur d'eau, mais enfin, déjà, on voit qu'il y a ici une unité qui est isolée au milieu de la mer. En fait, c'est même pas la mer, c'est le lac de Maracaibo. Là, en Russie, on connaît pas la ligne droite, mais enfin, on progresse puisqu'on est à 100 km de la mer. Dans la mer, vous voyez, c'était principalement en Caspienne, avec une version tout à fait classique de faire un village en mer. C'est un peu changé. Et ça, bon, là, le clin d'œil, 60 ans déjà, ça c'est pour mon âge, parce qu'il se trouve que 9 septembre, c'est presque ma date de naissance, donc je trouve que c'est vieux. Par contre, pour une industrie, c'est quand même encore un peu jeune. Les conditions de travail de l'époque, Dieu merci, ça ne se fait plus comme ça. L'homme est, qui est là le plus près, bien attaché. J'espère qu'il n'y a pas de marées qui sont trop rapides dans cette zone. Mais enfin, je vous rassure, ça fait plus, on ne travaille plus du tout comme ça, heureusement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet après ces premières présentations un peu générales. On va essayer de classer les plateformes. Alors, les plateformes peuvent être classées selon de nombreux critères. On a vu que ça dépendait du type de production, de l'huile, du gaz. Ça dépend de la profondeur d'eau. Ça dépend si on fait du forage ou pas du forage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Par contre, il y a déjà une notion qui est des plateformes qui vont être installées pour une longue période toujours à la même place et les plateformes qui vont se déplacer, qui vont pouvoir rentrer au port ou dans un chantier pour se faire maintenir. Donc les plateformes qui vont rester longtemps en place, elles sont soit posées au fond quand le fond n'est pas trop profond, soit flottantes. Et quand elles sont flottantes, elles sont ancrées par des lignes. Alors on verra tout à l'heure un peu plus amplement ce que c'est. En général, ce sont des lignes caténaires, soit avec des chaînes, des câbles, soit maintenant avec des lignes qui sont en matériaux synthétiques. Et ces lignes sont beaucoup moins pesantes. Et on verra tout à l'heure un exemple de poids qui sont suspendus à des plateformes. Ça peut être assez énorme. Et il y a également une technologie qui s'appelle les lignes rigides tendues et qui s'appelle les plateformes donc à lignes tendues. On verra quelques exemples. Alors, je rappelle que l'huile et gaz posent un problème différent. On ne sait pas stocker du gaz en mer, du moins pas actuellement. Il faut donc trouver un moyen d'évacuer ce gaz par un gazoduc. Il y a une exception, c'est pour le gaz de pétrole liquéfié qui peut, lui, se liquéfier en mer et être exporté. Et la tendance, on le verra à la fin, pour le gaz, c'est de faire du gaz naturel liquéfié en mer également et l'exporter, mais ça fait appel à des technologies nouvelles et également des challenges un peu nouveaux. Alors, définition, on appelle eau peu profonde. Cette définition a changé au cours des ans, puisque 200 mètres était profond il y a 30 ans. Maintenant, c'est devenu de eau peu profonde. Eau moyennement profonde, c'est de 200 à 400 mètres, 450. Grand fond, ça va jusqu'à 1500 mètres, 1800 mètres. Et ultra grand fond, de nos jours, on commence à parler de 3000 mètres de profondeur d'eau. Alors, il faut savoir qu'un plongeur difficilement opère au-delà de 150 mètres. À 300 mètres, l'opérabilité d'un plongeur est très faible. Donc, on va utiliser de la robotique, soit de la robotique contrôlée par Ombilico, qui s'appelle des ROV. Ça veut dire Remote Operated Vehicle. Ou des véhicules autonomes, c'est-à-dire des véhicules qui ont eux-mêmes leur propre logique de déplacement sans lien avec la surface. Dans le domaine du forage, on est passé en très peu de temps, enfin en 30 ans, on va dire, de 350 mètres de profondeur d'eau à 3050 mètres. Et dans le domaine de la production, on est passé de 150 mètres à 2400 mètres en sous-marin, pour développement totalement sous-marin, et en plateforme jusqu'à 2100 mètres pour l'instant. Avec des projets qui vont jusqu'à 2400 mètres sous peu. Alors voilà à peu près les types de plateformes qu'on rencontre. Alors, je vais peut-être utiliser la souris, ce sera plus simple. Les plateformes fixes, donc c'est généralement des tabourets qui supportent une installation en tête, limitaient les profondeurs d'eau d'autour de 100 mètres. Les plateformes exceptionnelles, qui sont des plateformes dites flexibles, qui vont au-delà jusqu'à 450 mètres. Après, des mini plateformes à ligne tendue, les plateformes à ligne tendue, les plateformes semi-submersibles avec ancrage caténaire. Or, les ancrages sont mal représentés, ils sont écrasés latéralement. Les spars, vous montrerai tout à l'heure ce que c'est qu'une spar. Et puis, finalement, les bateaux, qui sont des tankers qui vont, eux, produire et stocker de l'huile en mer. Alors, les profondeurs d'eau, les TLP, pour l'instant, se limitent à peu près à 1500-1800 mètres de profondeur d'eau et ne fonctionnent plus vraiment au-delà par la flexibilité de leur ligne. Et tout ce qui est à la droite ici peut fonctionner jusqu'à des profondeurs d'eau de 2400-3000 mètres, avec des ancrages un peu particuliers. Alors, comment déterminer le type de plateforme? Ça, c'est un casse-tête parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, la profondeur d'eau, les conditions d'environnement, le courant, la houle, le vent, la glace, les conditions de sol, bien entendu, la taille et la nature des équipements de surface. Est-ce qu'on fait du forage et de la production en même temps? Est-ce qu'on amène les puits en surface ou est-ce qu'on les laisse au fond? Y a-t-il du stockage pour l'huile? Les systèmes de connexion du fond sur la plateforme? Est-ce que la plateforme est habitée et comment est-elle habitée? Et bien sûr, je vais donc encore commencer par cela, les conditions d'environnement, hygiène et sécurité qui sont fondamentales. Les méthodes de fabrication sont aussi, ont une très grande importance sur la conception des plateformes et leur, la façon de les étudier. Et également les méthodes de mise en place en mer. Et puis également, ne pas oublier qu'un jour, ces plateformes arrivent en fin de vie et il y a le démantèlement et la réutilisation éventuelle. Le démantèlement est un gros casse-tête parce que les plateformes qui ont été installées il y a à peu près 50 ans n'étaient pas prévues pour être démantelées facilement. Donc la liste est longue et chaque compagnie qui a un champ à développer fait des pré-études. Et pour cela, il y a des sociétés spécialisées. Bon, il se trouve qu'il y en a une dans le groupe de technique qui s'appelle Genesis, qui est spécialisée pour faire ces études, avec des études de risque, aussi bien techniques et économiques. Alors, les plateformes fixes, on les appelle jaquettes. Je n'ai pas trouvé de traduction française bien particulière, à part tabouret, mais ça ressemble pas tellement à un tabouret. Donc, l'idée, c'est de mettre une structure treillis qui ressemble un peu à une tour Eiffel, une mini tour Eiffel, et mettre dessus un pont qui va supporter les installations. Jusqu'à présent, on s'est levé avec des énormes grues qui sont assez limitées en nombre dans le monde. On s'est levé jusqu'à 8 à 9 000 tonnes. Quand on a une plateforme qui a une installation en tête qui fait 30 à 40 000 tonnes, on voit qu'il y aura plusieurs boîtes à lever et donc après à faire des connexions entre ces boîtes et ceci en mer. Et on verra que c'est une contrainte. Quand les jackets sont trop gros et trop lourds pour être levés, ils sont posés par flottaison et basculement. Il y a une photo qui va illustrer cela. Il y a des plateformes gravitaires aussi, qui sont des plateformes qui ont une forme de qui restent au sol par leur poids. C'est principalement beaucoup des plateformes en béton. Et puis, il y a d'autres plateformes plus légères, qui sont dans les profondeurs d'eau peut-être un peu moindres, jusqu'à 150 mètres d'eau, des plateformes dites auto-élévatrices, avec ou sans embase en béton pour faire du stockage, ou des bases acier, fondées sur ou pilées. Ou des fondations dites à succion. Je vous expliquerai ce dont il s'agit après. Et également des ponts qui sont installés en une seule fois avec l'aide de systèmes de flottaison. Alors voilà une illustration du plus grand des jackets qui ait jamais été fait. C'était en profondeur d'eau de 150 mètres. Vous concevez qu'il n'est pas possible de lever avec une grue cet engin. Donc il a été transporté sur une barge. Et cette barge est submersible. On s'incline, on fait glisser la structure dans l'eau. La structure flotte, puisqu'on voit qu'il y a ici il y a des tubes qui servent à améliorer sa flottabilité. Et par des systèmes de ballastage et de vannes, on va la mettre à la verticale, la positionner et la poser. Par-dessus cela, après, on installera le pont qui supportera les équipements de production. Alors, dans ce type de structure, toutes les liaisons entre le fond et la surface font partie intégrante de la structure. Donc là, c'est assez relativement plus simple. Ceci étant, il reste tout le réseau, ce qui s'appelle le réseau de collecte, à connecter, tout ce qui va aller au fond pour aller chercher les têtes de puits un peu plus loin. Un autre géant, un monstre qui se fait peut-être de moins en moins maintenant, ça pèse 1 million de tonnes environ, ce sont les plateformes en béton. Alors celle-là était pour 330 mètres d'eau, en mer du Nord, dans des conditions de mer assez très sévères. Donc l'idée, c'est de faire une caisse, on ne la voit pas la caisse, mais une caisse en béton qui fait en général 100-120 mètres de côté par 50 à 60 mètres de haut, surmontée de 4 colonnes. Et sur ces colonnes, on vient mettre, comme vous le voyez ici, les installations de production, voilà ici. Et le tout est remorqué jusqu'au site, ballasté, posé au fond. Et une fois posé au fond, c'est supposé rester comme cela 30 ans, 40 ans. Ce sont deux exceptions pour les plateformes fixes. En fait, les plateformes fixes sont plutôt du style plus dans les profondeurs d'eau plus faibles. Donc là, il y a des générations de plateformes que Technip a développées qui s'appellent les plateformes auto-élévatrices. Ces plateformes viennent en flottaison avec leurs jambes relevées. On peut descendre par le moyen de systèmes de mécanique. On descend les jambes, on va poser les fondations au fond et on sort la structure de l'eau qui est temporairement flottante. Donc la première que vous voyez ici, c'est une plateforme qui fait à la fois du forage, de la production, de l'export et du stockage. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a une embase en béton au-dessous. Le poids levé, 20 000 tonnes. Donc on a levé, sorti de l'eau 20 000 tonnes en une seule fois. Celle-ci, qui est une particularité, c'est qu'elle n'est pas de, n'a pas d'installation de forage, mais c'est une plateforme qui est capable de produire directement du gaz pour le réseau domestique en Angleterre. Et cette plateforme a un poids sec de 30 000 tonnes. On a sorti 30 000 tonnes de l'eau. Elle est associée à une autre plateforme qui s'appelle une plateforme tête de puits à côté, j'ai perdu, là, qui est ici. Cette plateforme, elle, reçoit les puits, et ce sont des puits qui sont à 1150 bars et 180 degrés. Donc de la très haute pression et de la très haute température. Et la dernière qui a été installée cette année, qui est d'ailleurs pas tout à fait encore à la bonne hauteur, c'est une position temporaire, c'est en mer Caspienne. C'est la première fois que sur une plateforme de ce style, il y a les puits qui sont à bord, et des puits haute pression aussi, puisque 850 bars, c'est quand même pas rien. Donc là c'est le poids de cette plateforme levée était de 24 000 tonnes. L'intérêt de ce type de plateforme, c'est qu'elles sont terminées au chantier. Donc il est beaucoup plus facile de travailler à partir d'un chantier où les gens peuvent accéder facilement qu'en mer. On se plaît à dire qu'une heure de travail en mer est à peu près entre 6 et 10 fois moins efficace, du moins, et si, on va inverser la proportion, et 6 à 10 fois plus cher qu'à terre. Autre type de plateforme, sur une structure qui est préinstallée, qu'on voit ici, qui est sous l'eau, on amène en une seule fois, alors là, la structure est en 90 mètres d'eau, on amène cet ensemble en une seule fois, posé sur une barge. La barge se glisse entre les jambes de cette plateforme, et à l'aide d'un système de vérins et de ballastage, on va poser ce colis directement sur le support. Les vérins sont là parce que en Afrique, il y a des houles très longues qui font que les barges bougent beaucoup et il faut pouvoir saisir très rapidement, asseoir la charge sur le jacket pour éviter que l'on tape plusieurs fois. Un marteau qui fait 10 000 tonnes plus la barge et le support, ça peut endommager la structure en dessous, donc il faut aller assez vite. Alors, c'est une technique qu'on a employée assez fréquemment. On est allé jusqu'à 18 000 tonnes avec cette technique en Afrique. Alors ça, c'est pour les plateformes fixes. Bon, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif avec les plateformes fixes, mais il y a aussi beaucoup de plateformes flottantes, donc on va en parler. Dès que la profondeur d'eau devient trop importante, eh bien, l'idée, c'est de rester en surface ou en moyenne surface. Et pour cela, on utilise des plateformes du type bateau. Alors, type bateau, c'est un bateau, forme de bateau, et c'est principalement beaucoup pour les bateaux de forage. Pourquoi ? Parce qu'un bateau qui fait du forage d'exploration, il doit bouger beaucoup. Il va forer un puits pendant 3-4 mois à une position, et puis il va se déplacer, il va aller dans un autre champ. Donc sa vitesse de croisière est très importante. Il y a des bateaux de production, on verra aussi après, avec ancrage fixe ou ancrage qui permet au bateau de tourner autour d'une tourelle, avec du stockage. En général, quand on met un bateau, c'est qu'on a besoin de stockage. Et pourquoi avons-nous besoin de stockage ? C'est quand on est trop loin des côtes et qu'il n'y a pas un réseau de pipeline en mer qui existe. Et ça coûte très très cher de faire un réseau de pipeline. Et par exemple, en mer du Nord, il y a beaucoup de pipelines qui existent. Il y a relativement peu de FPSO, alors qu'en Afrique, il y a très peu de pipelines qui existent. Et donc, c'est principalement des FPSO qui développent les grands champs. Autre type de plateforme, les semi-submersibles. Donc, ces plateformes sont des plateformes qui font flotter avec une partie de leur capacité de flottaison qui est assez enfoncée dans l'eau pour amortir les mouvements et avoir de meilleurs mouvements. Elles n'ont pas encore des mouvements suffisants pour accepter de mettre les têtes de puits en surface. On verra tout à l'heure ce que ça signifie. Donc, ni les bateaux, ni les plateformes semi-submersibles ne peuvent accepter les puits en surface. Alors, il y a une race de plateformes qui se fait jour, je l'illustrerai par un petit film tout à l'heure, qui sont les semi-submersibles à grand tirant d'eau, c'est-à-dire qu'on va aller encore plus profond pour mieux stabiliser la plateforme, encore mieux amortir ses mouvements. Et ces plateformes semi-submersibles à grand tirant d'eau ont des mouvements qui autorisent la mise à bord des têtes de puits, de même que les spars, de même que les plateformes à ligne tendue. Alors, ces plateformes ont besoin de risers spécialisés. Si on regarde ce que c'est qu'un riser, donc le mot, c'est conduite montante en français, je m'excuse, mais riser est quand même plus simple. Si on regarde ces conduites montantes, à l'échelle, c'est la taille d'un cheveu. Donc, c'est un cheveu dans lequel on fait passer de l'huile et du gaz et qui doit résister au mouvement de la plateforme en tête. Le cheveu, lui, il est ancré dans le sol. La plateforme bouge en tête. Il faut bien sûr ne pas tirer et casser la ligne. C'est toute la problématique. Alors, voilà les plateformes mobiles. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait principalement des bateaux, mais aussi il y a aussi des semi-subs, des semi-submersibles. Alors, vous voyez ici l'illustration d'une semi-sub. C'est un grand ponton qui est sous l'eau. Et de fait, comme la surface qui est l'intersection de la surface mouillée est assez faible, ce qui fait que les mouvements de cette plateforme sont meilleurs que ceux d'un bateau. C'est plus confortable pour forer. Le temps de forage et l'interruption de forage du mauvais temps est plus faible sur une semi-sub, comme ça, semi-submersible, que sur un bateau. Néanmoins, cette unité reste une unité dite mobile. Elles sont classées et donc tous les 5 ans, elles doivent être révisées. La classe doit être révisée avec inspection au port, ce qui, bien sûr, est interdit par une plateforme qui doit rester en place constamment. Les bateaux de forage. Donc là, on voit un bateau. Le bateau il doit se mettre, bien sûr, cap à la houle et en même temps composé avec la houle, le courant et le vent. On voit une première définition de connexion. Ça, c'est le riser de forage, le puits, le futur puits. Et ces bateaux ont une assistance par propulsion qui, en fait, c'est plus que ça, puisqu'on dit qu'ils ont un positionnement dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance installée à bord avec une capacité de propulseur, d'étrave, qui est suffisante pour les maintenir dans une position, quelles que soient les conditions d'environnement. Ce sont des gros bateaux. Hein. Comme vous pouvez voir là, ce bateau, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça fait plus de 100 mètres de long. Alors, ces bateaux existent depuis longtemps et ils sont très, très, très efficaces. Alors, après, on passe à la production. Donc là, il n'est plus question de ramener la plateforme au port, ni de changer de faire recertifier sa classe. C'est des plateformes qui doivent rester en mer pour une durée de 20, 30 ans, 35 ans. Donc, on les appelle les plateformes de production, production combinée avec ou sans forage. Donc là, le domaine d'application des semi-submersibles de production, on voit, ça va de 80 à 3000 mètres. Production jusqu'à 180 000 ou même plus, ça peut être jusqu'à 220 000 barils. La présence de ce type d'engins, c'est mer du Nord, Brésil, Asie. Donc c'est des engins qui peuvent porter beaucoup de charges et qui peuvent supporter beaucoup de charges. Comme elles bougent malgré tout encore beaucoup, il n'est pas possible d'amener les têtes de puits en surface. Donc, on doit connecter ces engins avec des systèmes, des conduites flexibles, avec des têtes de puits au fond. Donc, c'est une notion donc, que je développerai un peu plus loin. Ici, on voit un bateau, donc toujours un engin flottant, bien entendu, où on va faire à la fois du stockage, et on commence à voir un peu ce qu'on appelle par canalisation au fond. Donc, ici, le bateau bougeant aussi beaucoup, il n'est pas possible de mettre les puits en surface. Et on doit donc relier les puits par des conduites à des têtes de puits sous-marines. Bon, ici, incidemment, on voit une tête de puits sous-marine qui est enfoncée dans le sol. Ce n'est pas le cas courant, mais c'était dans la zone canadienne parce qu'il peut y avoir des icebergs qui viennent ici et qui font effet de charrue, qui peuvent gratter le fond. Donc, on encaisse les têtes de puits dans ce qu'on appelle des glory holes pour éviter que quand ils passent, les icebergs les arrachent. Alors, bien sûr, les canalisations sont, elles, sacrifiées dans ce cas-là, mais il y a des obturations, des vannes de fermeture ici, qui fait que si un iceberg arrive et qu'on n'arrive pas à le dérouter, on déconnecte le bateau et on n'arrache pas les têtes de puits. Alors, ces bateaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on stocke en mer? C'est parce qu'on ne sait pas faire le réseau d'évacuation. Les côtes sont trop loin, ou il n'y a pas de réseau pour connecter des pipelines. Donc, dans ce cas-là, on fait un chargement en tandem d'un bateau. Ça, c'est un bateau qui va prendre la cargaison qui est stockée ici. On va la transférer dans ce bateau. Ce bateau se connecte et se déconnecte et va à terre livrer son pétrole. Donc, il y a un stockage qui, en général, dure à peu près, est fait pour tenir 10 jours de production. Donc, si un bateau produit 220 000 barils jour, on fait un stockage de 2 200 000 barils, 2 500 000 barils, ce qui en fait des bateaux énormes. Alors, celui qui est sur la photo n'est pas le bateau énorme, mais Actuellement, on fait les bateaux qui font à peu près 350 mètres de long par 63 mètres de large et 40 mètres de creux. Et qui portent, eux, 40 000 tonnes d'équipement. Alors, le champ d'application, c'est mer du Nord, Canada, mer Méditerranée, Afrique, Asie, Brésil. Alors, il y a une différence entre certaines mers. Certaines mers n'autorisent pas d'avoir un ancrage fixe du bateau. C'est-à-dire que le bateau doit pouvoir tourner et se mettre cap à la houle et au vent et au courant. Et donc, ce sont les bateaux dits à tourelle. Et là, donc, comme on voit ici, il y a une tourelle qui tourne. Enfin, c'est pas la tourelle qui tourne, c'est le bateau qui tourne autour de la tourelle. Et là, c'est la tourelle qui va supporter les lignes d'ancre. Et tous les effluents vont passer à travers cette tourelle, à travers des joints tournants, qui vont transférer l'huile qui arrive par ces risers dessous au système de production. Donc des joints tournants, vous voyez tout de suite 350 et plus barres avec des joints tournants. C'est pas si simple. Alors, le choix entre système flottant est aussi dicté par la nature du réservoir et la nature et type de puits qu'on peut avoir. Si on a un réservoir assez ramassé, comme c'est le cas de la figure de gauche, où on peut l'atteindre directement à partir de la plateforme, par des puits déviés ou des puits horizontaux, on sait forer maintenant des puits quasiment horizontaux, on sait aller à plusieurs kilomètres au-delà. Donc ça veut dire qu'on sait aller drainer un réservoir assez loin du point focal de la plateforme. On sait dévier cela et on sait arriver à 5-7 km maintenant. Donc si on peut atteindre le réservoir de façon, je dirais, productive et optimisée à partir d'une plateforme centrale, on préférera toujours se faire une plateforme centrale parce qu'on sait mieux traiter maintenir des puits lorsque l'on a les puits en surface. Et pour cela, on a besoin d'une plateforme dite plateforme qui est capable d'avoir des mouvements assez faibles ou suffisamment faibles pour qu'on puisse monter ces colonnes ici, les tenir en haut et accepter que la plateforme bouge et avec un système de liaison souple entre la plateforme et les colonnes montantes. Si on n'arrive pas à faire ce drainage à partir d'un seul point ici, que le champ est trop, je dirais, réparti, fracturé, qu'on a des 10 ou 15 ou 20 kilomètres, on ne pourra pas atteindre l'ensemble du réservoir avec des puits. On mettra soit plusieurs plateformes, soit on va faire un ensemble de puits sous-marins. Et à ce moment-là, on reliera les puits sous-marins par des canalisations qui vont monter sur la plateforme de production. Donc ces deux points sont très importants dans le choix d'un développement de champ. Soit on a une plateforme qui est capable de faire ceci, c'est-à-dire ramener les puits en surface, soit on ne peut pas. Très souvent, malgré tout, c'est un mélange des deux. Donc il y a des fois des puits qui sont traités directement par une plateforme avec des puits satellites qui arrivent par des lignes également satellites. Alors voilà l'illustration. À gauche, À gauche, les plateformes qui peuvent avoir des têtes de puits en surface parce qu'elles bougent peu. Alors la plateforme qui est ici, c'est une spar. Elle bouge très peu. La plateforme qui est ici, c'est une plateforme à lignes tendues. Elle est tenue par des lignes qui sont tendues au sol et ancrées au sol. Donc elle fait une sorte de parallélogramme ici. Donc elle ne bouge pas verticalement ou très peu. Elle bouge par contre assez horizontalement. Elle fait un peu de torsion. Celle-là bouge assez peu, beaucoup moins horizontalement, mais un petit peu plus verticalement puisqu'elle n'est pas tenue par des lignes tendues. Alors, l'inconvénient de ces plateformes-là, c'est que les lignes, pour les tendre, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de flottabilité supplémentaire en surface. Donc, qui dit flottabilité dit poids, dit surface offerte à la houle, dit plus d'efforts. Donc, on arrive à une limite aussi de ces lignes tendues, parce qu'au-delà de 1500 mètres de profondeur d'eau, elles commencent à avoir un effet ressort qui est difficile. Pour diminuer l'effet de ressort, il faut augmenter les sections des lignes de façon considérable. Augmenter les sections des lignes augmente le poids et on n'arrive pas à converger. Donc on se plaît à dire actuellement qu'avec la technologie des lignes en acier, on ne s'est pas dépassé 1800 mètres à peu près sur ces plateformes-là. À droite, les plateformes qui, elles, ne sont pas capables d'accueillir les têtes de puits qui doivent être impérativement au fond. Bon, il y aura toujours des cas d'exception dans des mers moins sévères, etc., où on pourra toujours arriver à mettre un puits en surface, mais en général, c'est la règle. Et entre les deux, il y a une race nouvelle de plateformes qui s'appelle les plateformes semi-submersibles à grand tirant d'eau, où on va descendre ces flotteurs beaucoup plus bas, c'est-à-dire à 70 mètres, 80 mètres de profondeur, Et ça a un effet stabilisateur extraordinaire et la plateforme bouge beaucoup. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit film sur les essais en bassin. Mais ces plateformes à grand tirant d'eau, on ne sait pas les fabriquer facilement. Donc il faut trouver des astuces pour les fabriquer. Alors, un peu plus de détails sur les plateformes dites à ligne tendue. Vous voyez, ce sont des lignes qui sont tendues entre le fond. Donc ça veut dire que, on va tendre un câble ou un tube entre une plateforme qui flotte et une fondation. Donc il faut faire travailler la fondation à l'arrachement, ce qui n'est pas très bon, n'est pas très facile, parce que les fondations n'aiment pas les efforts de traction. Elles aiment assez bien les efforts horizontaux rasants, très peu les efforts qui les tirent vers le haut. Néanmoins, c'est la technique. Et à ce moment-là, les lignes qui sont là, cette plateforme ne bougeant pas verticalement, là, c'est relativement plus simple de suspendre ces lignes directement au système de production. Donc vous avez une illustration, si j'ai bonne mémoire, c'est une plateforme qui est en Norvège, la Snorre. Elles peuvent porter des poids très importants aussi. Les spars. Donc les spars, c'est assez simple. C'est un grand cylindre. Alors au début, c'était un grand cylindre, un tuyau. Après, on a mis des systèmes autour, c'est comme sur les cheminées, pour éviter qu'il y ait des vortex, on a mis des espèces d'hélices. Puis après, on s'est dit, au lieu de mettre un grand tube qui est rempli d'eau, on va mettre une structure treillis. Donc c'est devenu la truss spar, la spar treillis. La plus grosse est en Holstein. Pour vous donner une idée de la dimension, ceci, ça fait 45 mètres de diamètre. Et ceci doit faire à peu près 200 mètres de haut. Un peu moins, 180 mètres. Donc il y a c'est un succès ce dessin, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été faites. Vous voyez la famille sur l'écran là. Et ces plateformes, la dernière qu'on vient de recevoir en commande, c'est pour 7400-800 pieds, j'arrive pas à lire. 7800 pieds. Donc on n'est pas loin des 2400 mètres, 2500 mètres. Mais la partie en surface est toujours la même. Et puis vous voyez qu'ici, il y a toujours ces fameuses lignes de liaison entre la plateforme et le fond. Or, ce n'est pas à l'échelle, parce que ça fait 150 mètres et ça fait 2400 mètres. Alors, ces plateformes sont construites de façon, un peu complexe, puisqu'on va les construire à l'horizontale. Ça interdit de mettre les équipements tout de suite, bien sûr, puisqu'on ne va pas transporter les équipements, eux, à la verticale. Et donc, on va d'abord transporter ces grands cylindres à l'horizontale, les basculer, les ballaster, et puis on va venir poser dessus les installations de production. Alors, les réalisations de plateformes, ça se peut pas se faire sans des grosses études. Bon, cette vue est un peu touffue, mais en général, des grandes installations, on parle en engineering d'un million d'heures. Alors, un million d'heures, c'est 350 personnes sur 2 ans à plein temps. Il faut faire simulation pour. Nous sommes dans une profession où les cahiers des charges, c'est nous-mêmes qui les définissons. C'est nous-mêmes qui définissons les actions de la houle, du vent et du courant sur les plateformes que nous dessinons. Donc, on ne se contente pas d'appliquer un cahier des charges. On doit nous-mêmes définir les conditions et d'exploitation et d'environnement et l'impact de ces conditions d'environnement sur nos plateformes. Les projets sont des très grands projets qui sont beaucoup très pluridisciplinaires. Si je faisais la liste des disciplines impliquées, que ce soit la mécanique des sols, la mécanique de la résistance des matériaux, différents matériaux, la métallurgie, les conditions d'environnement, l'hydrodynamique, l'hydrostatique, etc. Après, bien sûr, les appareils, tout ce qui est le process, jusqu'à la robotique, il y a énormément de... Un système de contrôle sur une plateforme, c'est quelque chose de monstrueux maintenant, puisque on arrive à peu près à 20 000 entrées donc sur un système. Alors, la mise en œuvre de la construction elle-même aussi, c'est assez colossal, puisque quand on garde à peu près 30 000 tonnes d'installation, et qu'on prend environ 250 heures-tonnes moyen, on arrive à 7,5 millions d'heures, si on ne s'est pas trompé dans le calcul, je crois que c'est bon. 7,5 millions d'heures, c'est quand même une grosse équipe, puisque si on disait que pour un million, il faut 350 personnes pour 2 ans, 7,5 millions, c'est 2 000, 3 000 personnes. Quoi, c'est des gros chantiers. Par contre, un impact important dans la conception, c'est le type d'installation et comment se construit la plateforme. Est-ce que peut se construire à quai, en flottaison, dans des formes de radoubles. Et dans tous les cas, nous avons besoin de moyens de levage très lourds. Le point important aussi, c'est le transport et l'installation en mer. Alors là, il y a un petit film qui vous montre une simulation, si ça marche. Décès en bassin. Ça a marché jusqu'à maintenant. Ça, bon, c'est bon. Alors, plein écran, ça va être ça. Non, c'est... Voilà. Donc là, ça va vous faire peur, mais c'est accéléré, pour faire savant, à la racine carrée de l'échelle, de l'inverse de l'échelle. Donc si l'échelle est au 60e, c'est accéléré à peu près 8 fois, quoi, 7 et 8 fois. Mais vous voyez quand même que sur des vagues qui sont des vagues cycloniques d'un an, ce qui est quand même assez énorme, on parle de vagues là, qui font pas loin de 25 mètres, vous voyez, le pont lui-même ne bouge pas beaucoup. Donc ça, c'est une plateforme semi-sub à grand tirant d'eau qui a des caractéristiques de mouvement telles qu'on pourrait installer les têtes de puits en surface. Alors vous voyez qu'aussi le déplacement horizontal est assez limité, ce qui est assez important. On peut concevoir que quand on relie une plateforme au fond par l'intermédiaire de lignes rigides, le déplacement horizontal est aussi important dans la tenue et la fatigue de ces pièces. Alors, en ingénierie, je réinsiste là-dessus, mais les méthodes d'installation sur la conception sont très importantes. On ne peut pas ignorer la façon de construire ni la façon d'installer une plateforme dans sa définition. Quand on utilise des grues qui sont assez énormes, puisque c'est des grues qui ont un déplacement de plus de 100 000 tonnes, pour lever 8 à 9 000 tonnes, elles ont une limite. C'est-à-dire que si on dépasse les 8 000 tonnes qui est la limite, ou les 9 000 tonnes qui est la limite, on ne sait plus les lever. Donc c'est un casse-tête parce que garantir qu'il y a on a envie de lever les plus gros morceaux possibles pour éviter après à faire des interconnexions entre boîtes. Si on dépasse le poids capable de la grue, on est coincé. Donc il n'est pas rare de voir des projets qui dérivent un peu et pour lesquels certains équipements ne pourront pas être installés au chantier, devront être installés offshore parce qu'on dépasse les limites de la grue. Et ça, c'est très, très, très ennuyeux, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, une heure de chantier peut être remplacée en coût par 10 fois son prix, entre 6 et 10 fois son prix en mer. Parce qu'en mer, il faut utiliser les moyens de transport des gens, il faut transporter les pièces, il y a des moyens de levage qui sont compliqués, et c'est un casse-tête. L'interconnexion entre modules, alors on appelle les modules ces boîtes élémentaires de 8000 tonnes, par exemple, est aussi un énorme point parce qu'il faut connecter en mer des lignes de tuyauteries qui résistent à des fortes pressions, des câbles électriques qui vont être tirés à travers directement sans boîte de connexion, enfin des systèmes de contrôle, des câbles de contrôle. Ça demande beaucoup de travail en mer. Donc on a tendance quand même à réfléchir de plus en plus à des systèmes auto-installables ou qui peuvent être installés, où on installe les unités en une seule pièce. Donc je vais illustrer cela par une ou deux slides. Les plateformes auto-installables, bon, comme le nom leur indique, elles quittent le chantier terminé. Elles ne font pas appel à une grosse logistique pour être installées. Et donc si elles sont un peu en retard, on peut attendre, la logistique marine n'est pas très coûteuse, on peut attendre avant d'aller offshore. Et de toute façon, la logistique marine immobilisée sera moins coûteuse que ce que coûterait la terminaison de la plateforme en mer. Alors, on va regarder deux cas. Un cas où c'est partiellement la vérité, c'est-à-dire que c'est partiellement auto-installable, et un cas où c'est totalement auto-installable. Alors, partiellement auto-installable, c'est pas tout à fait le cas de celle-ci, mais vous voyez qu'on transporte sur des navires spécialisés une plateforme qui a été construite à l'horizontale. Donc, en l'occurrence, c'est une Spar Treillis. Là, c'est une Spar classique. Ces bateaux ont la propriété de pouvoir se ballaster et d'être submersibles. Ils ont un élément de flottabilité à l'arrière, un élément de flottabilité à l'avant. On les ballaste et le colis qu'ils portent se met à flotter et on le sort. Ensuite, on fait un basculement et après, on passe à la grue. Alors, ce n'est pas la plus grosse grue, ça. C'est une grue qui doit faire 5000 tonnes de capacité, qui va aller prendre ce colis et le poser dessus. Alors, elle ne va pas le poser. Elle va le présenter et c'est la bouée, enfin c'est la structure qui est ici qui va être déballastée. Parce que vu le tirant d'eau qu'elle a actuellement, si on posait le colis, tout irait au fond. Hein, et on ne peut pas poser cette charge directement puisqu'elle n'a pas la flottabilité suffisante. Donc cette charge va rester suspendue à la grue pendant le temps qu'il faut pour déballaster, venir prendre le relais de la grue pour tenir cette charge. Donc c'est un peu long, mais bon, ça marche très bien. Et la plupart de ces plateformes ont été faites comme ça. Donc on dit quand on a un seul levage pour mettre un colis comme ça, c'est tout à fait faisable. Si on imaginait qu'il y a 5-6 modules, c'est un peu plus compliqué, puisque je vous dis, après, il y a tous les travaux d'interconnexion. Donc on a imaginé une solution, qui est une solution qui a été exécutée cet été, enfin même pas cet été, au mois d'octobre. On a transporté le colis, au lieu de le lever avec une grue, on l'a mis sur deux barges en catamaran. Vous voyez ? Deux barges du commerce. On l'a transporté en mer ouverte. La plateforme ici a été basculée et ballastée. Et le résultat, on a coiffé les deux, déballasté, enlevé les deux barges. Donc on a trouvé une solution qui nous évite la mobilisation de ces grandes grues. Ben là, elle n'était pas évitée parce qu'il n'y avait pas de grandes grues disponibles dans l'endroit où on a fait cette opération. C'était en Indonésie, enfin en Malaisie. Alors, les plateformes de plus en plus auto-installables. Je vais montrer la plateforme que vous avez déjà vue tout à l'heure, qui était la plateforme Harding pour BP, qui était, elle, sur une embase en béton. Donc, les étapes de fabrication et d'installation, on commence par fabriquer des éléments de jambes. Alors, ces éléments sont fabriqués en France. Ici, vous voyez la taille par rapport à l'homme. Vous allez voir après ce que ça devient. On fabrique une embase en béton qui va faire du stockage et qui va supporter la fondation. Donc, cet stockage ici a été construit dans une forme, une cale sèche, pas une cale sèche, une forme de radoub spécifique, construite avec des coffrages grimpants. L'étanchéité étant assurée par le calcul, bien sûr, et par la forme des cellules ici qui est cylindrique. Et une fois que l'ensemble flotte, on le sort, on l'a transporté. Et on a installé cette embase seule d'abord. On aurait pu l'installer avec le jack-up, mais là, on avait du temps devant parce que la construction de l'embase était plus courte que celle de la plateforme. Donc, ensuite, on construit en parallèle la plateforme à terre. Donc, là, en l'occurrence, elle a été faite en Corée, celle-là. Avec les éléments de jambes que vous voyez là, c'est devenu ça. Vous voyez à l'échelle. Donc là, il manque encore un bout des jambes. Ensuite, on la transporte, toujours sur un bateau semi-submersible. Alors ça, c'est le passage du canal de Suez. Ensuite, on la libère de son bateau en Norvège, en attente de finition. Il y avait quelques équipements à mettre à bord qui venaient de Norvège, donc on s'est dit, on va les prendre au passage. Et ensuite, on va aller l'installer au-dessus de l'embase qui avait été préinstallée. Donc là, on est très proche du contact avec l'embase. On voit que les jambes ont été descendues. On est très, très proche du contact. Et puis, pour arriver à cela, on utilise des systèmes auto-élévateurs, pignons et crémaillère, comme un vieux funiculaire, mais avec des pignons qui sont quand même plus puissants, puisque là, on a levé 22 000 tonnes à peu près. Et un système de verrouillage qui va, une fois l'ensemble levé, sécuriser, enfin, associer les jambes et la structure ensemble et la coque ensemble. Et pour finir, voilà le résultat. Donc là, on a une plateforme qui est sortie de l'eau avec un 22 mètres de ce qu'on appelle de clair, entre le niveau de la mer moyen et le dessous de la plateforme. Et là, la plateforme fonctionne et on voit les premiers puits qui sont installés là. Donc, vous voyez, c'est un ensemble assez important de réflexion et de méthodes d'installation et de construction. Autre exemple, nous avons plusieurs options pour le transport. On a vu tout à l'heure qu'on transportait la plateforme d'Harding à travers le canal de Suez sur un bateau, mais on a construit aussi une plateforme en mer du Nord, pour la mer du Nord, et dans ce cas-là, on l'a transportée à flot. Cet ensemble représente un poids de 50 000 tonnes à peu près. Donc c'est plus lourd que c'est à peu près le poids du Charles de Gaulle. Ça n'a pas la même fonction, mais c'est à peu près le même poids. Et voilà, une fois installé, ce que ça donne. Alors cette plateforme est le centre ici d'un complexe. Vous voyez en état d'achèvement le jack-up de forage qui est fort au-dessus de la plateforme tête de puits qu'on devine derrière. Et ici, il y a encore une assistance, ce qu'on appelle un flotel pour justement faire terminer les connexions qu'il y a ici entre les deux plateformes. Pour expliquer à peu près ce que ça représente, la hauteur totale de cette plateforme ici, la tranche de production, c'est plus de 60 mètres. Bon, d'autres cas de transport, je ne vais pas être trop long, mais ici on transporte une substructure qui a été fabriquée, par exemple, dans le, en Extrême-Orient, sur toujours ces fameux bateaux de semi-submersibles. Cette structure est équipée après au chantier, d'un chantier d'intégration, on y met les modules, donc là c'est toujours à terre, et ensuite on la transporte terminée pour la fixer sur ses amarres. Alors le concept qui remplace un peu tout ça maintenant, enfin qui pourrait remplacer tout ça, c'est la plateforme dite à grand tirando. On fait une plateforme qui a une plaque flottante qui va descendre assez profondément. Si on construit ça comme cela à terre, ça devient très instable. On ne sait pas franchir la, immerger ça sans instabilité. Donc l'idée nous est venue de construire cette plateforme comme cela et puis de la déployer après. Donc il y a un petit film qui illustre ça, qui est un peu pas trop long, j'espère. Alors il n'y a pas le son, mais enfin le son, moi je l'entends, mais vous pas. Je vais commenter au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de faire une plateforme qui dite à tirando ajustable. On la construit donc comme c'est montré là. Donc on la construit comme ça, voilà à peu près ce que ça donne. Les essais en bassin, là j'ai vu. Tout à l'heure on a vu que 4 colonnes, là, celle-là avait 3 colonnes. Donc on la transporte sur le chantier, du chantier, je veux dire, sur le site, dans cette forme-là, les jambes relevées. Et on va, par l'intermédiaire des lignes d'ancrage qui sont utilisées à ce moment-là comme treuil et par ballastage, on va la déployer. Alors ça s'applique dans les mers profondes, Brésil, Golfe de Guinée, Caspien, Golfe du Mexique. Donc on la remorque vers le champ. Les lignes d'ancrage ont été préinstallées. Et on va donc descendre les jambes par ballastage et contrôle de descente des jambes avec les lignes d'ancrage. Et une fois que cette opération est faite, on verrouille, comme on l'a vu tout à l'heure pour les plateformes auto-élévatrices, on va verrouiller entre elles les jambes et la structure ici, et déballaster. Et à ce moment-là, on a transformé notre plateforme en semi-submersible de grand tirando. Et comme cette plateforme bouge très peu, on va pouvoir mettre des têtes de puits en surface. Voilà, le déballastage. Alors, ce sont des opérations qui durent malgré tout une vingtaine d'heures. Donc voilà à nouveau les essais en bassin. Cela, c'était d'autres essais en bassin pour tester ce qui s'appelle les vibrations induites par vortex. Donc ce sont des mouvements assez lents, mais qui ont un impact sur les fondations, sur les ancrages. Et également une houle dite d'un an, mais sans cyclone, ce coup-là, vous voyez, ça bouge très peu. Donc ça, c'est un moyen de faire une plateforme avec terminée au chantier, avec une masse d'équipement très importante et sans avoir fait de travaux en mer. Alors la dernière catégorie de bateaux que je vais présenter, de plateformes que je vais présenter, c'est les bateaux de production. Donc là, on a affaire à un système qui est en long, puisque bateau, c'est assez longiligne. Ici, je vous montre un bateau qui a une tourelle et vous voyez les différents types de qu'on rencontre ici, d'équipements qu'on rencontre. Il y a bien sûr une torche pour brûler les gaz qui sont contenus dans les réservoirs si on veut faire un arrêt d'urgence. Il y a les quartiers d'habitation qui sont le plus loin possible de ça. Et il y a les systèmes de séparation d'huile et d'eau, les injections d'eau et la partie vie dans ce cas-là. Alors on parle de poids d'équipement qui vont jusqu'à 20-30 000 tonnes et plus. Alors la vue en éclaté, ce qu'on appelle la tourelle. Donc c'est un système qui est monté sur roulement en fait, ou appui glacier, et qui sert de ligne d'ancrage, et on amène ici des lignes flexibles qui arrivent sur le bateau. Alors la position de la tourelle est assez importante, parce que là, une tourelle à l'avant, c'est très bien parce que c'est ce qui donne la meilleure orientation du bateau, mais c'est très souvent là où ça bouge le plus aussi. Je vais peut-être un peu plus vite. Alors, tout cela, ces plateformes, donc c'est ce qu'on voit en surface. Il faut bien sûr les amarrer, il faut aussi les relier. Alors, je vais vous montrer assez rapidement ce qu'on fait. En particulier, un point important, c'est les fondations, c'est les amarrages. on conçoit bien que pour garder une plateforme en mer pendant 25 ou 30 ans, on ne va pas se contenter de mettre seulement des ancres classiques marines. On a de plus en plus l'utilisation de ce qu'on appelle des ancres à succion. Alors c'est quoi ? C'est un tube ouvert en bas qu'on va poser au fond de l'eau, sur le fond marin, et on va pomper l'eau qui est à l'intérieur pour créer un effet de succion. Et cet effet de succion, compte tenu de la pression qu'il y a, enfonce la fondation dans le sol. Et en tête, on fait partir les lignes d'amarrage. Donc ça, c'est une technique qui est maintenant très éprouvée. Et on voit ici qu'on arrive à enfoncer de plusieurs dizaines de mètres des fondations. À 200 bars ou 200 bars de pression au fond, il ne faut pas beaucoup de dépression pour enfoncer un cylindre comme ça. Et ces cylindres, donc, par effet de succion, aussi ont une propension à résister aux efforts verticaux. Et ça permet de fiabiliser des amarrages de longue durée. Alors les amarrages sont soit avec des chaînes, des câbles, mais dans ce cas-là, le poids en grande profondeur devient de plus en plus prohibitif et on va de plus en plus sur des lignes polyester synthétiques qui sont presque de poids dans l'eau nulle, sans parler des lignes tendues dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui ont une limite jusqu'à 1600 mètres. En plus de ces fondations, il faut bien sûr les liaisons fond surface, et ça je vais l'illustrer par la suite. Alors, les liaisons fond surface, vous avez vu cette photo tout à l'heure. Ici, on voit qu'il y a des lignes tendues linéaires qui montent du fond à la plateforme. Ici, on voit des lignes souples. Alors, les lignes tendues, c'est avec les plateformes qui bougent peu. Ces lignes tendues ne peuvent pas s'appliquer partout. On revoit la figure tout à l'heure, un autre exemple ici. Donc, vous avez les têtes de puits, ce qu'on appelle les lignes d'évacuation, les regroupements de lignes ici, qu'on appelle des manifolds, et puis on arrive à remonter tout ça. Alors, ces lignes doivent résister à des très fortes pressions, intérieures et extérieures, et également, elles doivent être isolées, parce que si, pour une raison quelconque, nous devons arrêter la production là, l'huile ne circule plus, elle peut se figer. Donc, une huile qui se fige dans une canalisation, c'est très désagréable à redémarrer. Donc, on a besoin de canalisations qui ont des très forts coefficients d'isolant. Je montrerai rapidement tout à l'heure. Il y a un collègue qui va présenter tout ce qui se passe au fond de l'eau, c'est bientôt, dans la semaine, M. Marion. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Voilà une illustration de ce qu'on fait. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc, direct, ligne tendue directe du fond vers les plateformes qui ont été depuis en surface. Liaison souple avec les plateformes qui ont été depuis au fond. Alors, voilà un détail de ce qu'on appelle les lignes tendues. Vous voyez la plateforme qui est là. Ceci montre une plateforme qui bouge horizontalement et verticalement. Donc là, on a besoin d'un système qui va autoriser les mouvements de la plateforme autour de cette ligne sans augmenter la tension dessus. Donc on arrive à faire des systèmes des limiteurs de tension qui vont accepter que la plateforme bouge tout en conservant une tension quasiment constante. Et également, vous voyez ici qu'on a besoin d'un joint flexible, ou du moins à flexibilité variable, pour éviter que l'on le torde lorsque la plateforme se déplace horizontalement. Donc il y a deux technologies. Il y a une technologie par système de vérin et une technologie par flotteur en surface. Alors voilà l'illustration. Alors il n'y a pas d'échelle humaine, mais enfin, je peux vous dire que l'homme, il fait à peu près cette taille-là. On arrive à des courses ici de 8 mètres. Des tensionneurs qui font quand même 8 mètres de course. Parce qu'en plus des mouvements de la plateforme, il y a la marée et il y a des cales accidentelles à prendre en compte. Donc il ne faut absolument pas tirer sur les lignes de liaison entre puits et le fond parce que ça pourrait être désastreux. Donc vous voyez, c'est un système de vérin avec des accumulateurs gaz qui autorisent ces déplacements en maintenant un effort quasi constant sur la ligne. Également, des rotations sont possibles à cet endroit-là pour éviter justement tout effet de flexion sur les lignes. Un autre exemple, ici, ici on a mis les vérins dans l'autre sens, qui travaillent en traction. Donc là encore, une course de 8 mètres. Et tout ce qui est suspendu, parce qu'à un moment donné, on va passer malgré tout de ce repère qui est quasi fixe à la plateforme, il faut mettre des lignes souples entre le point là-haut, le puits et l'appareil de production. De même que quand on supporte des lignes auxiliaires, il faut mettre en tête des systèmes qui évitent de tordre les lits, donc des systèmes qui sont des rotules à faible résistance. Système d'ancrage, illustration rapide, les chaînes. Alors les chaînes, ça paraît simple. En fait, ce sont des chaînes très particulières avec des hautes résistances, matériaux hautes résistances. Les chaînes assez monstrueuses, hein, vous voyez là, une chaîne comme ça, les chaînes humaines. Hein. Les systèmes de connexion de câbles, cette pièce-là fait à peu près plus d'une tonne. Ancre à succion, on l'a vu tout à l'heure. Donc des tubes assez longs à manutentionner qui font appel à des grues importantes. En tête ici, vous avez le système de succion de pompe sous-marine contrôlé par des robots. Donc voilà ce que ça donne une fois installé. Je ne vais pas être trop long là-dessus. Alors, les plateformes du type bateau comme ça, avec stockage, dans les zones où il y a des conditions de mer pas trop difficiles, on peut les ancrer de façon fixe. C'est-à-dire qu'on va les ancrer et elles ne vont plus, ces bateaux ne vont plus tourner autour d'un point fixe. Alors, ça simplifie quand même pas mal la connexion, puisque dans ce cas-là, on peut avoir des connexions qui sont réparties sur le bateau, comme on le voit là. Puisque le bateau ne tourne pas, on peut accéder. Mais le poids suspendu est assez important, puisqu'on arrive à avoir 5000 tonnes. Dans ce cas, à présent, on avait 5000 tonnes de suspension, et ça arrive que sur le côté du bateau, que sur un côté. Alors, pour installer les canalisations, je ne vais pas être très long là-dessus, mais je vais quand même vous montrer que c'est un autre monde. On a besoin d'engins de pose. Des bateaux qui vont poser des canalisations. Il y a deux techniques. Il y a la technique qui s'appelle la technique de pose en J, pas à pas. C'est-à-dire qu'on va prendre des tubes droits, les souder là, descendre pas à pas les tubes. On ne peut les descendre que verticalement. À l'horizontale, ils se casseraient. Hein, si on les portait même inclinés, on a besoin de les porter verticalement. Donc, deuxième technique. Alors ça, c'est assez long, puisqu'il faut faire le temps de soudure, etc. Temps de soudure, contrôle de soudure, isolant. Deuxième technique, on construit des canalisations à terre. Donc vous voyez ici une grande jetée en grande longueur. On les enroule, on les plastifie sur une bobine. Et après, on va les dérouler, les redresser et les descendre. C'est à peu près 20 fois plus rapide en mer. Mais ça a un diamètre limité jusqu'à 18 pouces. Alors l'historique de cela, un autre exemple. Nous avons développé ex nihilo, je dirais, grassroot, là, une installation en Angola. Donc il a fallu créer ce chantier. Et c'est la première fois qu'on chargeait un bateau en pleine mer. Et il a fallu créer un dispositif spécial pour éviter que le tube soit abîmé. Donc voilà une illustration des genres d'investissements qui sont associés aux plateformes. J'ai parlé d'isolant. Vous voyez que ce qu'on met en fond de l'eau, ce n'est pas un simple tube. C'est un tube qui lui, va transporter l'effluent. Mais autour, il y a un tube porteur. Et entre les deux, il y a un calorifuge. Et ce calorifuge, on fait appel à des matériaux nanoporeux maintenant qui ont un coefficient d'isolation extraordinaire et qui vont garantir que la canalisation ne va pas se refroidir de plus de 2 degrés pendant 24 heures, par exemple. Historiquement, cette technologie n'est pas tout à fait récente, mais enfin, elle avait beaucoup évolué, puisque les premières applications étaient en 1945. Je crois qu'elles étaient militaires, d'ailleurs. Et ensuite, on arrive au bateau amiral de la flotte de Technip. Pour vous donner une idée, cette bobine fait 33 mètres de diamètre. Il y en a deux, et chaque bobine porte 2500 tonnes de canalisation. On peut suspendre à cette tour 750 tonnes. Pour contrôler tout ça au fond de l'eau, pour faire des installations, pour ouvrir des vannes au fond de l'eau, on utilise la robotique. Donc soit de la robotique d'observation, soit de la robotique d'intervention. La différence entre les deux, c'est la puissance. La robotique d'intervention nécessite des puissances de 200 et quelques chevaux. Et puis également des trancheuses, des enfouisseuses de câbles, de canalisation, dans certains cas. Donc tout ça travaille dans les profondeurs d'eau de 2000 et 2500 mètres. Donc il y a aussi une notion de fiabilité de ces équipements et de manutention qui sont loin d'être évidents. Voilà des illustrations. La trancheuse fait appel à des puissances plus élevées, donc c'est pas évident de descendre dans 2000 mètres d'eau, 800 chevaux de puissance. Développement futur, alors le futur c'est aller plus profond, mais également c'est de trouver une possibilité de faire du gaz liquéfié en mer pour pouvoir évacuer le gaz autrement que par gazoduc. Alors, il y a des tentatives et des études qui se font actuellement. Donc le gaz, quelle est la problématique posée par le gaz? Le gaz, il est produit à un endroit, il doit être transporté à un autre endroit, et s'il y a plus de 1000 km, c'est très difficile économiquement à faire un pipeline. Donc on passe par l'étape de la liquéfaction du gaz. Donc ça veut dire qu'il faut le liquéfier à un endroit, le transporter liquide et le regazéifier en bout de chaîne. C'est la très basse température. Donc la métallurgie, les isolants, tout ça est assez particulier. Donc nous avons développé des technologies qui nous laissent entrevoir la possibilité de faire, de répondre à ce challenge. Alors cette slide est un peu touffue, mais bon, on retrouve la même problématique. Jusqu'à 30 mètres d'eau, on fait du stockage sous-marin émergent avec une plateforme de gazéification. Au-delà, on fait une plateforme classique et après, on fait un système flottant. Mais en système flottant, il faut avoir des flexibles, comme on avait pour l'huile, mais des flexibles qui résistent à cette température de moins 160 degrés. Ou bien des pipe in pipe, comme on l'a vu tout à l'heure, des tubes dans le tube, cryogéniques, qui aussi résistent à moins 163 degrés et qui ne présentent pas ces problèmes de dilatation. Parce que quand on arrête la production, le tube se réchauffe et ça pose des gros problèmes de dilatation. Donc on utilise des matériaux du style Invar. Des nanoporeux comme isolant dans ce cas-là. Et avec cela, on arrive donc à faire des tubes qui ne se dilatent pas, qui ont suffisamment d'isolation pour ne pas créer ce qu'on appelle la regasification dans le tube du liquide gazeux. Du gaz liquide. Et tout ça, on a donc fait des essais de pression d'éclatement jusqu'à 33 bars. Et ça s'est très bien passé. Donc c'est un peu le futur sur lequel nous travaillons actuellement, en dehors du fait qu'on veut chercher toujours à aller plus profond, parce qu'il y a des perspectives de réserves sous-marines assez profondes, au-delà de 3000 mètres. Voilà, je crois que ça... J'étais peut-être un peu plus long que prévu, je suis désolé.
Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Nous allons... Il y a beaucoup d'aspects qui nous ont intéressés. Il y a sûrement deux ou trois questions, malgré l'heure tardive. Est-ce que vous... Il y a des micros qui sont présents. Est-ce que vous voulez bien vous signaler? Je vois pas vraiment. Monsieur, ici. Il y a une question ici.
Là-bas aussi.
Et puis il y en a une autre où... et une autre ici. On a la première, on va prendre la seconde dans l'ordre. Allez.
Oui. Merci d'abord. Pour.
Allez-y, ça marche.
Oui, et merci pour cet exposé.
Oui, parlez dans le mic plus près.
Oui. Pouvez-vous nous dire deux mots sur tout simplement le tableau de bord de contrôle d'installation aussi complexe? Merci.
Je n'ai pas entendu.
On n'a pas entendu.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les positions de contrôle, de commande et de mesure pour la sécurité de telles installations? Merci.
Ah, c'est une question complexe. Les plateformes sont définies en plusieurs zones pour délimiter des zones donc d'incendie possible et de lutte d'incendie possible. Chaque zone est traitée avec des systèmes qu'on appelle de déluge. C'est un peu ce qu'on voit dans les immeubles, des sprinklers, mais à beaucoup plus haute capacité. Il y a aussi ce qu'on appelle des murs coupe-feu, des murs anti-explosion. Il y a bien sûr des systèmes incendies, je dirais, au gaz, mais c'est de plus en plus difficile. Le halon est interdit maintenant. Il y a surtout un énorme travail de prévention, parce que l'incendie ou l'explosion, c'est un échec. C'est pas, on doit protéger les gens si ça arrive, mais l'idée, c'est d'éviter cela. Donc il y a beaucoup de systèmes de détection de gaz, beaucoup de sectionnement, de vannes automatiques. D'abord, un puits en général est toujours contrôlé par une vanne automatique. S'il y a un événement qui se produit, une perte rapide de pression en aval de la vanne, elle se ferme automatiquement. Donc il y a tout un ensemble hein, aussi de protection thermique, de calorifuge qui protège les gens, des zones, et des zones qui doivent résister, des murs coupe-feu qui doivent résister à 2 heures contre un incendie, tout en laissant le personnel intact, enfin, etc. Quoi. Et le système de contrôle sur une plateforme est aussi extrêmement complexe pour justement éviter que ces phénomènes se produisent. Les protocoles de mise en service de plateforme aussi sont très, très, très méticuleusement préparés.
Qui et dans quelle région du monde sont fabriqués les équipements que vous avez décrits ? Parce que vous faites l'ingénierie, mais quels sont les fabricants ?
Alors, nous ne sommes pas qu'une ingénierie. Hein. Nous fabriquons pas mal d'équipements. Nous fabriquons les spars que vous avez vus. C'est la plupart des spars, c'est nous qui les avons fabriqués. Nous fabriquons des conduites flexibles. Mais ça, bon, Monsieur Marion vous en parlera plus longuement que moi. Nous fabriquons les fameuses lignes qui sont enroulées après. Nous les fabriquons. Nous avons 5 ou 6 sites dans le monde pour les faire. Nous avons aussi des fournisseurs associés. Par exemple, tout ce qui est le système auto-élévateur, le système de verrouillage, les jambes des jack-up que vous avez vu, des plateformes auto-élévatrices, pardon, sont fabriquées en France avec des partenaires qui nous avons des partenaires récurrents. Hein, ça fait 15 ans que nous travaillons avec eux. Je peux les nommer. Il y avait un Creusot-Loire Industil, il y a Engrenage et Réducteur, il y a Rexroth France. Enfin, il y a pas mal d'industries qui travaillent avec nous. Et en dehors de cela, je dirais que c'est un peu mondial. Il y a beaucoup de vannes qui sont faites en France. Mais l'industrie pétrolière est assez bien répartie dans le monde, hein, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en UK plutôt, pour être plus clair, en Corée, maintenant en Chine. Donc il y a pas mal de possibilités dans le mondial. Alors, il y a des pays un peu plus spécialisés que d'autres. Par exemple, les équipements de forage, c'est une grosse spécialité norvégienne maintenant, et américaine et allemande. Également italienne. La France est très spécialisée dans les tiges de forage, que ce soit avec Vallourec, des choses comme ça, des gens comme ça. Mais bon, voilà, quoi. Donc, on fait un peu. Puis, en fait, les clients aussi ont des listes d'équipements, puisque les clients ont un parc de plateformes et avec des problèmes de protocole de maintenance, et ils cherchent aussi à essayer de fidéliser des fournisseurs pour pouvoir simplifier la maintenance de leur parc. Mais nous sommes aussi fabricants, et ça c'est important.
Monsieur, attendez, ça arrive. Ce qui frappe un ingénieur comme moi, qui a suivi des constructions de bateaux, d'usines et de pipelines, mais il y a 40 ans, c'est le nombre d'heures d'ingénierie par rapport au nombre d'heures de construction. Alors, d'un côté, ça doit s'expliquer par la complexité des choses qui sont à l'intérieur de votre plateforme que vous nous avez simplement esquissée. Et d'un autre côté, ce sont quand même des très grosses. C'est de la grosse artillerie, si je puis dire. L'essentiel est de la grosse artillerie. Alors comment expliquer qu'il y ait maintenant une telle inflation de l'ingénierie ?
C'est un peu un signe des temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas caché mon âge. On faisait des plateformes il y a 30 ans. En un an, 18 mois, les plateformes de forage, on est à peu près incapable de faire ça maintenant. Le temps des pionniers, vous avez vu qu'il y avait des gens qui travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait respectueuses ni souhaitables. Bon, je ne dis pas qu'on a fait des mauvaises choses dans le passé, mais la réglementation a changé. D'autre part, il faut quand même savoir qu'au début, on a produit les champs pétroliers les plus faciles. Hein, on était dans les profondeurs d'eau de 40 mètres, 20 mètres. On a commencé par 15, 10, 15, 20, 30, 40 mètres, etc., etc., pour arriver dans des conditions de plus en plus difficiles maintenant, avec des natures de réservoirs qui sont aussi la nature humaine étant, on a tendance à développer ce qui est le plus facile au début, et puis après on se retrouve petit à petit avec les choses de plus en plus difficiles. Donc il est clair que quand on veut faire un développement de champs dans 2000 mètres d'eau, c'est pas du tout la même chose que quand on était dans Maracaibo, dans 20 mètres d'eau aussi. Hein. Donc là, les protocoles ne sont plus tous les mêmes. Hein. Quand on dessine une plateforme maintenant qui doit, chaque pièce qu'on descend au fond de l'eau doit résister à 200 bars ou éviter qu'elle résiste à 200 bars. Vous voyez, il y a tout un ensemble qui fait que la partie normative aussi est beaucoup plus sévère qu'avant. La partie dite HSE est aussi très importante, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, puisqu'on a maintenant, Dieu merci, des taux d'accident beaucoup plus faibles qu'avant. Alors, tout cet ensemble fait que on a. Alors, je ne veux pas parler aussi de l'influence néfaste du email qui évite, qui peut nuire des fois à la prise de décision, mais là, je parlerai comme quelqu'un d'âgé, je ne voudrais pas vous laisser cette impression.
On va prendre deux dernières questions.
Il y a une dame, là, peut-être qu'il faut prendre une dame quand même.
Allez-y. Il y a une dame devant, et puis monsieur.
Je voulais savoir si dans les cas de sinistre de plateforme, parce que ça arrive quand même, même si les études...
On n'entend pas.
Je voulais savoir si dans les cas de sinistre de plateforme, c'était en général l'ingénierie qui était mise en cause ou une autre cause ou plusieurs.
Oh, les causes sont rarement uniques. Mais si vous m'accordez 2 secondes, je vais vous montrer ce que je ne voulais pas vous montrer. Je l'ai mis en annexe. On va se contenter de cette présentation comme ça. Voilà. Cette plateforme était stable comme un chandelier avec la partie équipement en surface. Et là, elle est devenue encore plus stable, mais avec l'équipement est sous l'eau. C'est ce qu'on n'aime pas faire. Alors, il y en a une autre. Celle-là, elle a pris un penchant qui n'est pas tout à fait intéressant. Elle n'est pas perdue, elle a été récupérée. Mais enfin, voilà le genre de... Alors, vous savez, on a une profession où on ne s'amuse jamais des accidents qui arrivent aux autres. Parce que, en général, ces accidents sont la concomitance de phénomènes qui s'enchaînent et il n'y a pas forcément des causes uniques. Alors, c'est toute la partie normative, toute la partie réglementaire, toute d'ailleurs... ma carte de visite comporte aussi un rôle d'analyse de risque, responsable du risque, du management du risque technique. Et je dois dire que c'est une tâche assez lourde, puisque on se doit de faire d'avancer technologiquement, des avancées technologiques, tout en gardant les pieds sur terre et en évitant les accidents. Donc ça veut dire que les protocoles de certification de produits, les protocoles de certification de nouvelles méthodes, de nos calculs, sont à faire par des ingénieurs et non pas uniquement s'attacher au formalisme de la chose. C'est vraiment un travail d'expert et qui demande du temps et de l'argent. Et bon, malgré tout, le risque zéro n'existant pas. Bon, ce que j'ai montré là, la première qui s'est complètement retournée, c'est un résultat d'un cyclone. Hein. Donc, manifestement, ce type de plateforme n'est pas fait pour résister très bien au cyclone. Les spars que je vous ai montrés ont toutes... passer les cyclones sans problème. Alors, il y a quelques désordres sur des structures secondaires qui ont un peu souffert, mais rien de sérieux.
On va en prendre encore deux, mais ce sera vraiment les deux dernières, monsieur et puis en haut.
Dès qu'une plateforme fonctionne et qu'un puits est en service, j'ai compris qu'on obtenait de l'huile et des quantités importantes de gaz.
Oui.
Actuellement, il n'y a pas de solution pour traiter le gaz. Que devient ce gaz?
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai dit que le gaz, on ne savait pas le stocker. En fait, c'est un peu faux. On sait l'exporter par des gazoducs. La plateforme Elgin que vous avez vue, elle a un gazoduc de 450 km. En 36 pouces de diamètre. On parle en pouces dans cette industrie. En fait, 36 pouces, ça ne doit pas être loin d'un mètre de diamètre. Donc on sait le faire, mais c'est très coûteux. Donc l'export de gaz à partir d'une plateforme ne peut se faire que si le gaz a une vraie valeur. Donc là, c'était le cas. Mais il y a une façon d'utiliser le gaz, c'est de le réinjecter. Donc ce qu'on fait en général, il y a une phase de production d'huile. Quand on a l'huile et gaz, on réinjecte le gaz dans le réservoir pour maintenir la pression, pour faire remonter l'huile. Et ce n'est qu'en fin d'exploitation qu'on produit le gaz, et à ce moment-là, on installe un gazoduc. Mais la tendance actuellement, c'est de regarder si on ne peut pas faire de la liquéfaction en mer. Et il y a relativement peu de gaz, de champs de gaz en pleine mer actuellement. Relativement peu, pour cette raison. S'il n'y a pas une connexion par pipeline.
On est à 800 km, il n'y a pas de solution.
800 km, ça commence à être très coûteux. D'autre part, la plateforme que je vous ai montrée, la plateforme de Chadenise en Caspienne, c'est une plateforme de gaz avec des condensats. Le pipeline a coûté plus cher que l'ensemble de la plateforme. Donc, si vous voulez, pour vous donner une idée de l'investissement, la plateforme a dû coûter dans les, je ne sais plus exactement, mais enfin, 800 millions de dollars. Le pipeline a dû coûter 2 millions de dollars au minimum. et l'unité de traitement un milliard de dollars. Donc vous voyez, le pipeline est au moins la moitié du développement. Parce que c'est du gaz.
De maîtrise de chantier, on met la plateforme en route.
On met la plateforme en route. D'abord, le gaz, on l'utilise pour faire la génération de puissance.
Oui, on a le gaz. Et puis, le pipeline pour le gaz n'est pas prêt. Ou l'usine qui doit traiter le gaz à terre n'est pas prêt.
On fait des puits de réinjection de gaz. On réinjecte le gaz. C'est-à-dire qu'on sépare l'huile et le gaz. On réinjecte le gaz. On utilise le gaz pour faire ce qu'on appelle du gaz lift, c'est-à-dire pour alléger la colonne d'huile quand le champ n'est pas assez productif. Et de ce fait, on sait utiliser le gaz. Mais les champs qui ont beaucoup de gaz, s'ils ne sont pas raccordables facilement et économiquement, on ne sait pas les développer actuellement.
Bon, dernière question.
En mer du Nord, il y a plusieurs centaines de plateformes qui ont été construites et installées. Pas mal de gisements sont maintenant épuisés. Que compte-t-on faire des plateformes restantes et notamment des plateformes en béton?
Alors, j'aurais du mal à répondre pour les plateformes en béton parce que je ne sais pas trop moi-même. Ça dépend lesquelles, mais le béton de Harding, par exemple, qui est au fond de l'eau, sera enlevé. Les grandes plateformes qu'on a vues tout à l'heure dans 300 mètres d'eau, ce sera peut-être plus problématique. Il y a actuellement des premières plateformes qui sont démantelées en mer du Nord. Et pour cela, ça a fait appel à des moyens extrêmement lourds et coûteux. C'est pas simple. Les plateformes qu'on démantèle maintenant ont été installées avec des petits moyens d'installation. C'est-à-dire qu'elles ont été installées en petits modules. Et pour les enlever en petits modules, c'est très coûteux. Et en plus, elles ont été modifiées. Elles ne sont pas identiques à ce qu'elles étaient au moment où on les installait. Et il faut les revérifier en calcul avant de les enlever. Donc vous concevez que c'est et même parfois les renforcer. Donc c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire on va renforcer une plateforme qu'on va démanteler, mais c'est ce qui se produit actuellement. Il y a plusieurs champs qui sont en démantèlement. Il y a un champ de Frigg en mer du Nord, et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom, qui sera Ecofisc aussi. Qui est en phase de démantèlement. Mais ça fait appel à une très forte logistique, des conditions de sécurité importantes pour le personnel, et également beaucoup de calculs en amont pour vérifier qu'on peut enlever ces petits éléments qui ont été installés il y a longtemps. Mais c'est difficile de répondre à une question aussi vaste. C'est chaque fois un cas d'école. Alors il y a aussi le problème d'enlever les canalisations au fond de la mer. Et là, il y a tout un protocole également, parce que ces canalisations ont vu des effluents divers et variés pour ne pas faire de pollution.
Bien, Monsieur Doma, nous vous remercions. Alors.